l'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi Radio Mandeléo pour vous informer. Voici d'abord les titres de ces radiojournals. Au sommaire, des violents combats ont opposé toute la journée du mardi 2 décembre 2025 les troupes de l'AF-123 aux forces armées de la RDC appuyées par les forces burundaises et les Wazalendo sur plusieurs fronts. Ces combats ont été particulièrement intenses dans la plaine de la Ruzizi en territoire d'Uvira, dans la chefferie de Kaziba en territoire de Walungu et à Chirunga en territoire de Kabare. Ces hostilités ont entraîné la destruction des habitations et des blessés ont été signalés. Dossier à suivre dans cette édition du journal. Également dans cette édition dans le sud du Sud Kivu, la grève des infirmiers qui dure depuis un mois aurait déjà coûté la vie à plus de 200 personnes. Selon la société civile d'Uvira, 57 des TDC concernent des enfants de plus de 5 ans. Face à cette crise sanitaire qui paralyse 9 zones de santé, la nouvelle société civile congolaise exhorte les autorités à examiner en urgence les revendications du personnel soignant. La technique est assurée par Barton Boussi, mais au microphone pour la présentation, je suis Omar Moudekereza. Mesdames et messieurs, vous suivez Radio Mandeléo, celle qui vous informe par un instant. C'est tout pour les titres. Place à présent au détail. Et vous l'avez suivi en titre, des violents combats ont éclaté toute la journée du mardi 2 décembre 2025 entre les troupes de la AFC-M23 et les forces armées de la RDC, appuyées par les forces burundaises et les Wazalendo sur plusieurs fronts, précisément dans la plaine de la Ruzizi en territoire d'Uvira et dans la chefferie de Kaziba en territoire de Walungu. Dans le territoire d'Uvira, des sources rapportent que c'est depuis tôt le matin que ces combats ont eu lieu précisément dans le village de Katogota, un village du groupement d'Itara Luvungi proche de Kamanyola, n'est-ce pas Expedi Kalou?
Ici, des détonations à l'arme lourde et légère ont été entendues depuis tôt le matin et ont duré toute la journée. Des mouvements intenses des militaires autant de l'AFC-M23 que de leurs adversaires ont été aperçus courant dans tous les sens. Ces détonations ont été entendues jusque dans des entités voisines comme Kamanyola, provoquant une forte tension et l'arrêt des activités. Des bombes larguées sont tombées dans le quartier Rugenge en plein cœur de Kamanyola, provoquant la destruction des deux maisons et plusieurs blessés, dont deux enfants, rapportent des sources sur place. Dans d'autres entités situées un peu plus loin de Kamanyola, à savoir Luvungi et Sangé, une situation inhabituelle a été rapportée à la suite de ces affrontements qui ont provoqué des nouveaux déplacements et une débandade de certains éléments FARDC. D'autres combats d'une forte intensité ont été rapportés dans la chefferie de Kaziba et sur les collines de Ngomo, en croire des sources sur place. À Kaziba, par exemple, des populations sont restées sous le lit toute la journée de mardi 2 décembre 2025. Jusque tard dans la soirée, alors qu'une forte pluie s'abattait sur cette partie du sud Kivu, la situation est restée la même avec des détonations à l'arme lourde et légère. Dans la journée, une bombe a explosé à près de 3 km du centre commercial de Luangoku, précisément sur la colline de Mouera, et aurait provoqué la mort d'au moins 5 personnes, dont un chef de village, indique un défenseur des droits humains de la place. Difficile pour l'instant de préciser qui contrôle telle ou telle autre entité entre les forces combattantes, mais des sources crédibles rapportent que les lignes auraient bougé d'un côté comme de l'autre. Entre-temps, dans la chefferie de Kabare, un groupe d'éléments Azalendo a fait incursion dans le groupement de Chirunga avant d'ouvrir le feu pour combattre les éléments de l'AFC-M23 postés non loin du bureau de la chefferie. Les activités sont restées paralysées et les élèves de l'école primaire Luami n'ont pas pu étudier suite à cette situation, explique des sources sur place. Précisons que ces nouveaux événements surviennent pendant que les présidents rwandais et congolais sont attendus à Washington pour la signature d'un accord censé mettre fin définitivement à la guerre, selon une communication de la Maison Blanche lundi dernier.
Merci à vous, Expedi Kalou. Précisons qu'aux dernières nouvelles, un élève de 4e année primaire du complexe scolaire La Bénédiction, situé dans le quartier Nyakavogo en commune de Bagira, a été blessé par une balle perdue alors qu'il était en pleine séance de cours, selon les responsables de l'établissement. La balle a atteint l'enfant au niveau de la cuisse droite. D'après la société civile locale, cette balle perdue proviendrait des échanges de tirs entendus à Chirunga entre les Wazalendo et les troupes de l'AFC-M23. L'élève a été conduit dans une structure médicale où jusque dans la soirée, les services tentaient encore d'extraire les projectiles, ajoute notre source. Entre-temps, d'autres affrontements intenses ont été rapporté ce mardi dans le parc national de Kahuzi-Biega, le long des lacs Chivanga, Bunyakiri, Kalonge dans le territoire de Kalehe. Les combats auraient éclaté tôt le matin et seraient poursuivis toute la journée, alors que les troupes de la F-123 auraient progressé avec les tensions d'atteindre Kalonge. Sur place, un habitant dit que plusieurs familles ont été vues quittant le centre de Chifunzi et ses environs pour des zones jugées plus sûres, craignant l'arrivée des affrontements. Pour l'heure, il demeure difficile de connaître les positions exactes des belligérants dans cette partie du Sud-Kivu. Mais la panique aurait gagné la population, selon un leader local contacté. Et dans un autre chapitre, c'est depuis bientôt 3 mois que les activités sont au ralenti dans le site minier de Lumera, situé dans le groupement de Louyigi, un territoire des Kabaré. Un site qui était pourtant devenu une des plaques tournantes de l'économie de plusieurs ménages du Sud-Kivu. Suspendu en date du 8 septembre 2025 par le gouverneur de province sous la F-123 à la suite des troubles qui s'y étaient produits un peu plus tôt le vendredi 29 août 2025 lorsque les trésors artisanaux s'étaient soulevés contre l'équipe de sécurité civile qui venait de tuer un des leurs, Myriam Moufano.
Depuis lors, l'entrée dans le site a été interdite à tous les exploitants miniers, tout comme à toutes les autres personnes qui y exerçaient des activités connexes. Plusieurs investissements ont alors été abandonnés suite à la pression dans laquelle étaient obligés de déguerpir tous les occupants. Malgré les plaidoyers des organisations de la société civile, les autochtones et d'autres exploitants, aucune autorisation ne sera accordée. En parallèle, les autochtones sont restés dans une précarité sans précédent, car ne pouvant plus cultiver leurs champs, car ils sont occupés par les exploitants miniers. Au regard également de la sécheresse qui frappe la partie nord du territoire des Kabaré, avec un impact déjà visible sur la production agricole, il se profile à l'horizon une situation qui pourrait paraître intenable, estime Égide Sanzira, porte-parole de la notabilité locale de Lumera. Il plaide pour une intervention urgente de la reprise des activités dans la mine de Lumera afin de rendre la vie encore plus active. On l'écoute.
La situation n'a pas changé, c'est de la misère qui s'est accentuée dans les communautés. Et cette fermeture des activités ou du site minier à Lumera n'a pas seulement impacté à Lumera. Ça a touché les villages ou les autres groupements qui dépendaient de Lumera et en général la province du Nord et du Sud-Kivu. On peut aussi revoir un peu la vie de tous ceux-là qui ont investi à Lumera. Pour nous, la communauté locale, nous n'avons plus où cultiver. Le message aux autorités, c'est leur demander, c'est leur supplier d'avoir pitié de cette population de Lumera. Parce que nous vivons en tout cas une vie intenable. Aujourd'hui, il y a les enfants qui sont en train de tomber évanouis à cause de la famine à Lumera. Nous demandons une fois de plus aux autorités provinciales, à la haute hiérarchie du mouvement M23, d'avoir pitié de toute la population de Lumera, de tous ces gens qui ont investi à Lumera et qui se retrouvent aujourd'hui sans activité.
Précisons par ailleurs que plusieurs personnes qui exerçaient les activités dans ces sites de Lumera ont choisi de passer leur journée dans les sites des Kadjaboué, situés à proximité mais sans activité, tandis que d'autres errent dans d'autres coins du groupement en attendant une probable reprise des activités.
Merci à vous Myriam Moufano, mesdames et messieurs, en cours de diffusion. C'est l'édition du journal sur Radio Maïndéléo émettant en direct de la ville de Bukavu.
Suivez Radio Maïndéléo en direct partout dans le monde sur www.radiomaïndéléo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maïndéléo. Radio Maïndéléo, c'est vous.
La suite de cette édition du journal est comme d'ailleurs annoncé au sommaire suite à la grève des infirmiers qui totalise déjà 1 mois. Plus de 200 personnes sont décédées faute d'accès aux soins de santé dans plusieurs zones de santé dans la partie sud de la province du Sud-Kivu. C'est ce que rapporte la nouvelle société civile congolaise en territoire d'Uvira qui cite les données reçues des infirmiers titulaires des diverses zones de santé de la partie sud de la province. Dans ce rapport, la nouvelle société civile congolaise d'Uvira rapporte 11 décès maternels, 137 décès d'enfants de plus de 5 ans et une septantaine de décès des personnes adultes. Ces décès sont rapportés dans 9 zones de santé, à savoir Uvira, Ruzizi, Lemera, au plateau d'Uvira, Nundu, Fizi, Kimbilulenge, Minembwe et Tumbwe. Au vu de la situation, la nouvelle société civile congolaise en territoire d'Uvira alerte l'opinion sur les dangers qui guettent la communauté et demande aux décideurs d'examiner les revendications des infirmiers. Freddy Moudeba, coordonnateur provincial adjoint de la nouvelle société civile congolaise AXA Sud, Sud-Sud Kivu en parle.
Nous venons d'alerter l'opinion nationale et internationale et particulièrement le gouvernement congolais sur les cas de décès que nous venons d'enregistrer suite à la grève sèche infirmière qui a commencé depuis le 3 novembre 2025 jusqu'à ce jour. Total de 123 de décès déjà enregistrés, dont 11 décès maternels, 137 décès des enfants de moins de 5 ans et 75 décès autres âges confondus. Et ce bilan a été donné au CEM Monitoring. Nous avons eu des éléments à travers les infirmiers titulaires de chaque de santé dans les différentes zones de santé, y compris aussi les relais communautaires qui représentent la communauté. Nous alertons le gouvernement congolais pour faire le plus que possible afin de trouver les pistes de solutions par rapport aux revendications des infirmiers. À partir du lundi 8 décembre 2025, nous avons déjà décidé aussi de faire des actions de grande envergure. Nous allons faire le sit-in au niveau du gouvernement et nous amènerons les malades pour que le gouvernement puisse comprendre qu'il y a un problème très sérieux.
Radio Maindeleo a tenté de joindre les autorités sanitaires dans la partie sud de la province, mais les efforts sont restés sans succès. Et dans ce même chapitre, les habitants du territoire d'Idjui sont appelés à éviter l'automédication et à se rendre dans des structures sanitaires chaque fois qu'ils affichent des symptômes de paludisme et des infections respiratoires. L'appel est du médecin chef des zones de santé d'Idjui, le docteur Aimé Kemba, dans un entretien avec Radio Maindeleo après avoir été alerté sur la présence de plusieurs cas dans cette partie du sud Kivu. N'est-ce pas, Alon Kabika?
Celui-ci explique que les enfants sont les plus touchés dans leurs écoles respectives. Parmi les symptômes affichés, le médecin chef des zones de santé dit du parler de la fièvre, des céphalées et des courbatures. Pour ce qui est du paludisme, les docteurs Emen Kemba appellent les habitants d'Idjui à porter régulièrement les masques et ou cache-nez, mais aussi d'observer l'hygiène environnementale autour de leur maison afin de se protéger contre cette maladie. Aux responsables d'école, déplacer des dispositifs de lavage des mains dans leurs écoles et d'éviter la promiscuité dans des salles de classe afin de limiter la chaîne de transmission de la grippe. Les docteurs Emen Kemba.
Dans les deux cas, la symptomatologie est presque similaire, c'est-à-dire que les malades se présentent avec des fièvres, des céphalées, des courbatures, une fatigabilité. C'est surtout les enfants et les élèves qui sont victimes de la maladie en question. Mais il y a aussi des adultes qui sont atteints. Continuons à demander aux parents de toujours consulter dans les structures de santé et d'éviter l'automédication. Par rapport à la grippe, nous demanderons aux parents d'observer des mesures barrières, même au niveau des écoles. Pensez au port des masques, mais aussi à l'hygiène de main. Au niveau des écoles, voir comment ne pas laisser cette promiscuité entre les élèves malades et ceux qui ne sont pas encore malades. Continuons à sensibiliser à travers nos relais communautaires, les CAC, pour que les gens comprennent que ce n'est pas un sort ou une nouvelle maladie, comme ils ont tendance à le dire. Le paludisme, c'est une maladie que nous connaissons et pour lutter contre le paludisme, c'est toujours utiliser des moustiquaires imprégnés d'insectes. Il ne faut pas qu'il y ait des endroits là où il y a des stagnations d'eau, surtout ceux qui ont l'habitude de fabriquer des briques. Dès que vous terminez, il faut voir comment drainer de l'eau qui se trouve autour de votre maison et ne pas laisser un environnement favorable au développement des moustiques.
En termes de prévisions, celui-ci rassure tout de même que des séances de sensibilisation sont menées par des relais communautaires auprès de la population.
Entre-temps, les personnes en situation de handicap dans la province du Sud Kivu plaident pour l'implication des autorités afin qu'elles adoptent des mesures spécifiques pour leur assurer la protection en cette période particulière qui accentue leur vulnérabilité. C'est notamment intégré dans leur politique l'inclusion des personnes en situation de handicap pour assurer leur promotion. Le message est de Blaise Boulonza, coordonnateur de l'organisation Initiative pour un avenir meilleur INAM en sigle, en marge de la commémoration de la Journée mondiale des personnes vivant avec handicap, célébré le 2 décembre de chaque année. Il insiste sur la nécessité de respecter la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes vivant avec handicap, estimant que cela peut contribuer à leur épanouissement. Blaise Boulonza pense qu'il est urgent d'éliminer les obstacles qui accentuent la vulnérabilité, la stigmatisation, la pauvreté et l'exclusion sociale à l'endroit des personnes vivant avec handicap. Il plaide pour un régime d'égalité des chances afin de permettre à cette catégorie de personnes de vivre et jouir pleinement de leurs droits. Blaise Boulonza.
Nous demandons au gouvernement, c'est-à-dire aux équipants, d'adopter des mesures spécifiques pour protéger les personnes en situation de handicap pendant cette période de conflits et de crises qui les affectent, qui affectent de manière disproportionnée les personnes en situation de handicap. Mais aussi, ils doivent prioriser l'inclusion dans les politiques, c'est-à-dire intégrer les objectifs plus ambitieux et des résultats concrets en matière d'inclusion du handicap dans tous les domaines d'action et à tous les niveaux. Mais aussi, ils doivent, peu importe leur qualité, ils doivent respecter la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes en situation de handicap et une Convention des Nations Unies que la République démocratique du Congo a ratifiée depuis 2006. Les autorités doivent éliminer les obstacles systématiques, c'est-à-dire lutter contre la discrimination, la stigmatisation, la pauvreté et les barrières qui entravent l'inclusion à l'autonomie.
Il encourage par ailleurs toutes les initiatives des pays, mais regrette de voir que les personnes vivant avec handicap ne soient représentées dans les espaces de dialogue et de prise de décision. Entre-temps, la communauté entière doit se mobiliser comme un seul homme pour dénoncer les violences numériques, les violences sexuelles et celles basées sur le genre, ainsi que toute autre forme de violence dont sont victimes les femmes et les jeunes filles dans la société. Message lancé mardi 2 décembre 2025 par Congo Hope Initiative, une organisation qui milite pour les droits de la femme au cours d'une conférence tenue à Bukavu dans le cadre de la campagne mondiale des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. À travers des sketchs, des comédies, des chansons et des débats, les participants ont été édifiés sur les violences numériques à travers les réseaux sociaux et autres formes de violences que subissent les femmes et les jeunes filles. Il a été aussi question d'appeler les femmes et les filles à dire non en dénonçant, briser les silences et demander que justice soit faite pour que les auteurs ne restent pas impunis. Une recommandation a été faite aux hommes de publier ce qui est utile, constructif et qui ne nuit pas à l'honneur de la femme et de la jeune fille. La coordinatrice du Congo Hope Initiative, Colette Salima, explique.
Les violences basées sur le genre nous concernent tous, hommes et femmes. D'ailleurs, ça ne peut pas marcher sans l'implication des hommes. Ça nous concerne tous et il est grand temps que les hommes jouent également leur rôle pour qu'on puisse mettre fin à ça. Si la femme est victime de violences basées sur le genre aujourd'hui, l'homme y est pour beaucoup. Voilà pourquoi je dis, il faut que les hommes arrivent à jouer correctement leur rôle. Si les hommes se disent aujourd'hui, arrêtons avec cette histoire, ça salit nos mamans, ça salit nos femmes, ça salit nos filles, vous allez vous rendre compte que en un clin d'œil, on ne va plus parler des violences basées sur le genre, on va parler d'autres thématiques. Mais puisqu'il y a des gens qui continuent, qui excellent dans ça, on continue. Parlant des violences numériques, je crois que nous devons faire de notre mieux. Et nous tous, nous devons jouer notre rôle, comme je l'ai dit. Le téléphone, tout ce qu'on a comme numérique, ne doivent pas nous emballer dans tout ce qu'il y a comme saleté, n'importe quoi. Ces téléphones-là, apprenons à bien nous en servir. Lorsqu'on se décide de prendre son téléphone pour publier quelque chose, publions ce qui est important. Il faut que chacun arrive à dire aujourd'hui, si je vois un mauvais message qui concerne tel, un mauvais message qui n'est pas important, je dois faire de tout mon mieux pour stopper la propagation de ces messages. Je dois faire de tout mon mieux pour stopper la diffusion de ces messages.
Cette activité s'est tenue dans la salle Concordia de l'archevêché de Bukavu et a connu la participation d'autres organisations féminines qui militent pour les droits de la femme en province du Sud-Kivu. Et dans le reste de l'actualité, pour garantir les droits des consommateurs de produits alimentaires en RDC, la Ligue des consommateurs de services au Congo Kinshasa, Likoska en sigle, recommande une mobilisation immédiate des pouvoirs publics en renforcement strict des mécanismes de contrôle. Cette recommandation est contenue dans le feuillet de la Likoski, consulté par la rédaction de Radio Maïndélé au mardi 2 décembre 2025. Cette position a été exprimée lors d'une émission spéciale organisée à Bukavu dans le cadre de la Journée mondiale de l'alimentation à Alain Kabika.
Dans ses feuillets, la Likoski fait savoir que l'absence des lois spécifiques sur la protection du consommateur laisse la population exposée à des risques sanitaires et économiques majeurs. Cette structure précise que deux propositions des lois déposées au Parlement depuis 2006 n'ont jamais été examinées, illustrant un désintérêt persistant des législateurs face à une question pourtant essentielle. Ce feuillet fait référence à une émission tenue le 16 octobre à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation par la Likoski, où les organisations présentes avaient appelé l'État à encadrer le prix, assurer la traçabilité des produits, sanctionner la vente des produits frelatés et renforcer les contrôles de la chaîne alimentaire à tous les niveaux. Ces organisations avaient insisté également sur la responsabilité du consommateur, invitant ces derniers à connaître ses droits, lire les étiquettes, faire des choix éclairés, veiller à l'hygiène alimentaire et signaler toute anomalie constatée sur les marchés. Placé sous le thème mondial, main dans la main pour des aliments et un avenir meilleur, l'émission a mis en lumière les efforts des récoltos et des plusieurs partenaires engagés dans la promotion des systèmes alimentaires durables en RDC. Précisons qu'un prochain numéro du feuillet Les Consommateurs reviendra sur les bases légales existantes dans les secteurs de l'agriculture et l'alimentation.
Et avant la deuxième partie de cette édition du journal, disons que l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu compte désormais 5 nouveaux docteurs à thèse au sein de son département d'anglais. Il s'agit des docteurs Migo Bienfait Trésor, Malobi, Poto Emmanuel, Makuru, Trifonette et Makasinge Sera Théophile, qui ont brillamment soutenu leurs travaux en didactique de l'anglais le lundi 1er et mardi 2 décembre 2025. Myriam Mufano.
En ses deuxièmes jours de soutenance, Dr Makuru Trifonette a présenté son travail portant sur la didactisation des tâches communicatives à partir du manuel English for Africa, un ouvrage dédié aux élèves de 5e année secondaire. Il y met en lumière les obstacles de l'expression orale des élèves, notamment la peur de s'y tromper et les manques de préparation pédagogique de certains enseignants. Selon elle, cette recherche propose des outils pratiques pour améliorer l'enseignement de l'anglais en facilitant la prise de parole des élèves et en renforçant les compétences des enseignants. Elle suggère la diffusion des fiches pédagogiques issues de son étude dans plusieurs établissements scolaires afin d'enrichir le pratique didactique. Dr Makuru Trifonette explique.
Nous avons initié une leçon bien structurée pour l'enseignement des tâches. Moi, je sais que cet enseignement, la didactisation, les fiches de préparation que nous avons proposées vont beaucoup aider les enseignants à améliorer leur façon d'enseigner l'anglais. Le problème que nous avons essayé de développer, de voir, c'est celui que nous avons toujours, disons, déploré. Celui d'arriver à la fin, par exemple, des 4 ans des humanités, et les élèves n'arrivent toujours pas à parler l'anglais. Alors, il faut créer un espace pour que les élèves appliquent, pratiquent l'anglais. C'est cette approche que nous avons essayé de développer pour aider les enseignants et même les élèves à arriver à parler l'anglais.
Et lance un appel aux enseignants d'anglais à collaborer avec les chercheurs pour rehausser ensemble la qualité de l'enseignement de cette langue au sein des écoles.
La revue de presse. Radio Maïndélé au Cap vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
Le lynchage d'une femme accusée de sorcellerie dans le village Tshishoke Premier, dans le groupement de Bushumba en territoire de Kabare, la naissance suivie du décès de plusieurs enfants dans les territoires de Mwinga, suite aux mauvaises conditions dans lesquelles ils naissent, et le naufrage d'une pirogue motorisée sur le lac Kivu dans le groupement Bougaroula en territoire d'Idjui font partie des sujets commentés par la presse mardi 2 décembre 2025. Alain Kabika pour la revue de presse.
Une femme d'une cinquantaine d'années a été lynchée puis brûlée vive dans un acte de justice populaire lundi 1er décembre 2025 à Tshishoke Premier, dans les groupements de Bushumba en territoire de Kabare, annonce le site internet estnews.info. Selon des sources locales contactées par ces médias, la victime, connue sous le nom de Mwarutega, était régulièrement accusée de sorcellerie par certains habitants de son entourage. Le même source indique qu'en début d'après-midi, une foule immense en colère s'est rendue à son domicile, l'a forcée à sortir de sa maison et l'a conduite jusqu'au lieu où il a été violemment lapidé avant d'être brûlé vive. La victime a été inhumée mardi 2 décembre 2025 après autorisation des autorités compétentes, déplore ce site internet. Elle laisse plusieurs enfants derrière elle, confirme nos sources. Le chef des groupements de Bushumba, Benjamin Chimoussa Mouressa, confirme ce drame et condamne fermement ce qu'il qualifie d'acte barbare. Il appelle ses administrés à dénoncer tout cas suspect auprès du bureau du groupement afin que les services habilités puissent engager des procédures légales. Dans un autre sujet, le souverain libre.info parle de la situation sécuritaire qui demeure précaire en territoire de Mwinga. Selon le journal, plusieurs personnes ont trouvé refuge dans la brousse et d'autres dans des familles d'accueil depuis l'intensification des combats dans cette partie de la province du Sud Kivu. À en croire la société civile locale citée par le journal, des enfants et des femmes sont les plus grandes victimes dans ces affrontements. Certaines femmes accouchent dans la brousse avec tous les risques possibles, déplore le journal Les Souverains Libres. La société civile précise que certains enfants nés dans des conditions précaires ne parviennent malheureusement pas à survivre. Ces derniers décèdent quelques minutes après, suite aux intempéries. La société civile, contactée par le journal, indique que pour la seule journée du samedi 29 novembre 2025, 3 cas de décès d'enfants ont été enregistrés à Mwinga Centre. Au-delà des intempéries, ajoute ce journal, Les structures sanitaires du territoire des Mwinga souffrent aussi du manque d'intrants médicaux. Des partenaires qui approvisionnaient ces derniers ne trouvent plus de passage sur la route nationale numéro 2, qui est d'abord totalement dégradée et ensuite coupée en deux suite à l'insécurité. Les villages les plus concernés sont Kilungutwe, Kangola, Chowe, Kalama, Kasika jusqu'à Kalambi. La plupart des familles qui ont quitté leur village ont pris la direction des villages Kigogo, Ilowe, Irangi, Sungwe, Iganda, Ngando, Kashombo, Mizulo, Mbobole, Kitamba, Kisubi et dans la ville de Kamituga. La société civile demande qu'il soit ouvert un couloir humanitaire afin que l'assistance parvienne aux plus vulnérables, dont des femmes enceintes, des enfants, des personnes vivant avec handicap et des personnes de troisième âge. Clôturons cette revue de presse avec la presse africaine.net qui annonce que le village Louéza, dans le groupement des Bougaroula en territoire d'Idjoui, a été frappé par un événement malheureux la matinée du lundi 1er décembre 2025. Selon ces médias, il s'agit d'un bot motorisé qui a chaviré sur le lac Kivu avec à son bord 26 personnes, selon des témoignages des rescapés. Lors de ces naufrages, précise la presse africaine.net, 7 personnes ont été sauvées et 10 autres disparues, affirment ces mêmes victimes qui témoignent que les dégâts s'est produits vers 8 heures locales lorsque la pirogue provenait du village Kalinga pour Bukina Nyana, un autre site de l'organisation Prolassa. Les mêmes informations sont confirmées par Emmanuel Mahoussi, chef de village Louisa. Des recherches ont directement été lancées pour tenter de retrouver les corps des victimes, affirment ces derniers. Le chef de village Louisa plaide pour l'accompagnement matériel et financier afin de poursuivre des recherches des corps des disparus et l'organisation des cérémonies funéraires, comme recommandé également par les membres des familles touchées, conclut le site internet d'information La Presse Africaine.net.
Et c'est par cette note, mesdames, messieurs, que nous mettons fin à cette édition du journal sur Radio Maïndéléo. Sa mise en onde était celle de Barton Boussimé au microphone pour la présentation. C'était bien moi, Omar Moudekereza. Au revoir.